Avant, Seigneur, de te tendre une oreille attentive pour recevoir ta parole, nous aimerions une fois de plus te dire merci pour avoir agréé ce temps consacré à la louange, consacré à l'adoration, pour nous avoir donné l'occasion, Seigneur, de nous réjouir devant toi, de nous attarder, ô Dieu, devant ton trône, ce trône sur lequel tu es assis, à partir duquel tu étends ton règne dans tout l'univers. Père, merci d'avoir eu une oreille attentive, Seigneur, à nos prières. Merci pour l'amour que tu as, cet amour qui t'amène, Seigneur, à nous attirer à toi, ô Dieu, et à nous donner cette capacité à entrer dans ta présence et à nous prosterner devant ta gloire, devant ta majesté, et à te rendre ce qui t'est dû de toute éternité. Seigneur, merci, merci pour tout. Après ce temps, ce moment merveilleux, ce moment qui nous ont permis, Seigneur, de nous exprimer librement devant toi, nous voulons te tendre maintenant une oreille attentive afin que tu nous parles. Aide-nous à comprendre toutes ces vérités, Seigneur, en rapport avec cette capacité, ô Dieu, à laquelle tu nous appelles, cette capacité à voir l'invisible, à être pleinement conscient des réalités invisibles qui nous cernent. Seigneur, oui, aide-nous à profiter au maximum de cet enseignement pour grandir, Seigneur, pour croître dans ta connaissance, pour grandir dans ta grâce, pour, Seigneur, développer cette capacité, ô Dieu, à voir l'invisible, mais aussi cette puissance à influencer l'invisible, afin, Seigneur, d'induire des changements conséquents dans le monde visible dans lequel nous sommes. Oui, parle-nous, au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Bien, nous allons revenir à notre thème, à savoir comment voir l'invisible. Et depuis quelques dimanches, nous sommes donc en train de parler du renoncement de soi, qui est donc quelque chose de fondamental, car nous ne pouvons pas aller plus loin si nous n'apprenons pas à nous renier nous-mêmes, si nous n'apprenons pas à renoncer à toutes ces choses négatives, au péché, au monde, eh bien, nous ne pouvons pas aller plus loin. Mes amis, si nous ne comprenons pas ce que la Bible entend par renoncement, si nous ne réalisons pas que c'est une des conditions qu'il faut absolument remplir pour devenir un disciple du Christ. Alléluia. Et gloire au Seigneur. Nous allons lire Marc chapitre 8, à partir du verset 34. Jusqu'au verset 38. Puis il appela la foule avec ses disciples et leur dit, c'est le Seigneur qui parle, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Quiconque en effet voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. » Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? En effet, quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Que celui qui veut venir après moi, que celui qui veut me suivre, que celui qui veut devenir mon disciple, eh bien, il doit apprendre à renoncer à lui-même, à se charger chaque jour de sa croix, et puis ensuite à marcher derrière moi. Et enfin, un deuxième texte qui va donc nous permettre d'avoir une lumière supplémentaire sur ce concept du renoncement, c'est donc Ésaïe chapitre 57, à partir du verset 14. Il dira, frayez, préparez un chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Et il poursuit, car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. Je demeure dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais aussi je demeure avec l'opprimé, mais littéralement avec l'homme brisé, l'homme contrit, et celui qui est humilié dans son esprit, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs brisés, les cœurs contrits. Et gloire au Seigneur. Nous poursuivons donc notre parcours à travers la parole de Dieu pour essayer de trouver des vérités qui nous aident à mieux comprendre combien cette vérité est fondamentale, des vérités qui nous aident à réaliser ce qu'est le vrai renoncement, ce que ça veut dire. Nous prendrons un temps pour le définir, pour regarder autour et alentour de ce concept ô combien important de la vie chrétienne. Je vais donc introduire mon message ce matin par une série de questions. Des questions que j'adresse à chacun de nous. Mes amis, voulons-nous vraiment voir l'invisible? Voulons-nous vraiment voir les réalités vivantes qui nous cernent? Voulons-nous vraiment voir l'invisible par excellence, l'invisible suprême, à savoir Dieu lui-même? Aspirons-nous à expérimenter la présence et la puissance des résurrections de Dieu dans notre vie? Aspirons-nous, mes amis, à expérimenter cette vie que le Seigneur Jésus promet à ses disciples lorsqu'il dit dans Jean 10, verset 10, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle aille en abondance. » Et donc le Seigneur voudrait que nous puissions expérimenter la plénitude de cette vie qu'il nous a promise. Que nous puissions, mes amis, grandir. C'est une vie extraordinaire, c'est une vie magnifique. Mais seulement, est-ce que nous aspirons à tout cela, ou alors ça reste du domaine de la théorie, nous lisons, ben nous passons? Voulons-nous échapper à la dictature du moi et de l'emprise de notre propre volonté, qui sont de véritables freins, de véritables obstacles, mes amis, à l'œuvre de Dieu dans notre vie? Aspirons-nous à mieux connaître Jésus afin d'expérimenter sa puissance tous azimuts dans notre vie? Oui, tant de questions que nous pouvons nous poser quant à la nécessité, quant à l'importance, mes amis, de comprendre ce que la Bible entend par le renoncement. À toutes ces questions, j'aimerais vous dire qu'il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a pas non plus de formule spirituelle toute faite qu'il faudra appliquer dans sa vie pour qu'enfin on expérimente le renoncement. Il n'y a pas. Pas du tout, mes amis. Il y a seulement et simplement un chemin à prendre, chemin périlleux, chemin éprouvant, chemin humiliant du renoncement de soi. Voyez-vous, le moi n'aime pas ça. Le moi aime s'accrocher à tout ce que le monde offre. Le moi, eh bien, aime être parfumé d'orgueil, de fierté personnelle, d'arrogance. Voyez, il n'est pas du tout prêt à renoncer à tout cela pour se jeter entre les bras du Seigneur. C'est donc un chemin que nous devons prendre si nous voulons expérimenter véritablement ce qu'est le renoncement. Un chemin éprouvant du renoncement de soi, du renoncement à soi-même. Il y a seulement et simplement un processus, mes amis, long, qui est appelé à durer toute notre vie, un processus long et humiliant dans lequel nous devons absolument entrer si nous voulons expérimenter la vie de Dieu en nous, si nous voulons développer cette capacité à non seulement être conscient des réalités invisibles qui nous cernent, mais aussi cette capacité à voir l'invisible par excellence, c'est-à-dire Dieu lui-même. C'est donc ce processus, ce chemin, qui conduisent de manière inéluctable, immanquablement, à la mort du moi, à sa mise à mort. Car tant que le moi sera vivant, tant que le moi occupera la première place dans notre vie, croyez-moi, eh bien, nous n'expérimenterions pas la plénitude de la vie de Dieu en nous. Voyez-vous? Il nous sera difficile, même impossible, d'aller de l'avant. C'est ce qui explique, mes amis, l'impotence de l'Église aujourd'hui. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Église est incapable de résister à toutes sortes de vents, à toutes sortes de tempêtes de ténèbres. C'est ce qui fait que nous-mêmes, nous sommes incapables de résister à la moindre tentation, voyez-vous, parce que nous sommes imbus de nous-mêmes, parce que nous résistons ou nous ne voulons pas du tout prendre le chemin du renoncement à nous-mêmes. Et gloire au Seigneur. Donc, ce processus et ce chemin-là sont indispensables. Ce sont eux qui conduisent à la mise à mort, à la crucifixion du moi. Plus le moi va mourir, plus il va céder la place à Christ, plus nous pourrions alors vivre pleinement Jésus en nous, et plus nous pourrions un jour dire, avec l'apôtre Paul, Christ est ma vie. Alléluia. Si je vis, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Et gloire à Dieu. Et donc c'est important. Le Seigneur nous demande de faire des disciples et non pas des simples fidèles. Voyez, aller dans le monde entier. Voilà la commission, le mandat suprême qu'il a laissé à l'Église. Allez dans le monde entier, prêchez la bonne nouvelle et faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc nous sommes appelés à devenir des disciples, mais il y a un prix à payer. Vous ne pouvez pas devenir disciple comme ça parce que vous le voulez ou parce que vous le sentez. Voyez-vous, il y a un prix à payer. Il y a un chemin que nous devons prendre. Il y a donc un processus qui doit s'enclencher dans chacun de nous. La mort du moi, la crucifixion du moi, mes amis, reste la condition sine qua non pour être véritablement disciple de Jésus, pour expérimenter sa puissance, pour voir, in fine, l'invisible dont il est question depuis plusieurs dimanches. Le renoncement à soi-même est donc la réponse idoine, la réponse appropriée à toutes les questions que nous nous sommes posées au début du message. Vous voyez? Le renoncement et encore le renoncement et toujours le renoncement. Vous voyez? Il est rare que quelqu'un entre dans une librairie chrétienne pour aller chercher un livre qui lui montre comment mourir. Comment mourir à soi-même? Quand nous entendons tous attirés par des titres alléchants, comment s'épanouir, comment être élevé, comment vivre la victoire, et encore quand on parle de la victoire, eh bien ce n'est pas comme la Bible nous l'a décrit. C'est quelque chose, c'est une expérience, mes amis, que le moi n'aime pas. Voyez? Et pourtant, sans cette expérience, certains risquent de rater le ciel. Car si vous n'avancez pas avec Dieu, eh bien vous allez reculer avec le diable. Si vous n'avancez pas avec Dieu, c'est le monde qui va exercer une certaine pesanteur sur vous et vous tirer vers le bas. Revenons à Marc, chapitre 8, versets 34 à 38. Le Seigneur est clair. On n'a pas besoin d'un diplôme en théologie pour comprendre ces paroles du Seigneur qui nous montrent les conditions à remplir si nous voulons devenir des disciples du Christ et avoir cette assurance de le voir un jour lorsqu'il reviendra. Il est temps que nous nous réveillons, que nous fassions très attention, voyez-vous. Beaucoup seront surpris en ces jours-là. Beaucoup diront, comme le Seigneur d'ailleurs lui dit, « Seigneur, n'ai-je pas prêché en ton nom ? N'ai-je pas accompli des miracles en ton nom ? N'ai-je pas chassé les démons en ton nom ? N'ai-je pas jeûné pendant 40 jours comme toi ? N'ai-je pas, Seigneur, fait ceci ? N'ai-je pas fait cela ?» Et le Seigneur leur dira, « Non, je ne vous connais pas. » Parole terrible. Voyez ? Après avoir vécu dans l'hypocrisie, après avoir caressé une fausse espérance, en ce jour-là, lorsque la trompette sonnera et que les autres seront enlevés, vous restez. Soyons sérieux dans notre engagement. Réalisons l'importance et la nécessité de mourir à soi-même. Le Seigneur le dit. Si quelqu'un veut venir après moi, Si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut devenir mon disciple, voilà ce qu'il doit faire. Qu'il renonce à lui-même. Qu'il se renie soi-même. Qu'il se charge chaque jour de sa croix, et puis ensuite qu'il me suive. Donc ça veut dire que suivre Jésus implique, Seigneur, certaines expériences que nous devons faire absolument en amont. Nous suivons Jésus en aval, mais pour que nous arrivions à marcher sur ses traces, il faut que quelque chose se passe en amont. Voyez? Et donc tout ça, se renier soi-même, ou renoncer à soi-même, se charger chaque jour de sa croix, eh bien tout cela nous parle du brisement. Voilà. Le brisement. Le moi doit être broyé. Le moi doit être brisé, mes amis. C'est le premier ennemi de l'homme. Voyez-vous, notre premier adversaire, eh bien, ce ne sont pas les démons, ce n'est pas le diable, c'est le moi qui est en nous, voyez. C'est ce moi qui essaye par tous les moyens de nous attirer vers les choses de ce monde, voyez-vous, de nous mettre les bâtons dans les roues, le moi, encore le moi. Ésaïe 57, verset 15, que nous venons de lire, eh bien, nous parle, nous révèle les résultats extraordinaires du brisement. Écoutez ce que la Bible nous dit au verset 15. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. Le ton est donné. Sa demeure, eh bien, est élevée. Il habite, mes amis, son sanctuaire céleste, qui est donc au-dessus de tout. Sa demeure est éternelle. Et son nom est saint. Il poursuit, c'est le Seigneur qui parle. Je demeure, j'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Ça, c'est très clair. Si tu veux rejoindre Dieu là où il est, et nous n'avons pas de choix, d'autre choix que de le rejoindre là où il est, car c'est auprès de lui qu'il y a la victoire, c'est auprès de lui qu'il y a, mes amis, la paix, qu'il y a la joie, le bonheur suprême, c'est auprès de lui. Mais que nous dit-il? J'habite dans les lieux élevés, mais aussi dans la sainteté. Soyez saints, comme je suis saint. Devenez saints, comme je suis saint. Tel est donc le message que le Seigneur adresse à son peuple. Vous voyez? C'est le message qu'il avait déjà adressé au peuple de la première alliance, c'est-à-dire à Israël. C'est le même message qu'il adresse au peuple de la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire nous qui sommes ses enfants en Jésus-Christ. Et il poursuit. Il demeure, il habite dans les lieux élevés, dans sa demeure éternelle, mais il habite aussi dans la sainteté. Et il continue. La deuxième adresse, et je vais revenir là-dessus. Mais, je suis aussi avec l'homme contrit. Nous pourrions paraphraser en disant, j'habite aussi avec l'homme contrit et humilié. L'homme humilié dans son esprit, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs brisés, les cœurs contrits, les cœurs humiliés. L'homme n'aime pas l'humiliation. Le moi n'aime pas ça. Voyez? Il n'aime pas ça. Et pourtant, le chemin du renoncement passe par l'humiliation, passe par toutes sortes d'épreuves, passe par le brisement. D'après ce passage d'Ésaïe 57, verset 15, nous voyons que le Seigneur a deux adresses. Deux. Si vous voulez le trouver, allez là où il est. Approchez-vous de lui. Entrez dans sa demeure éternelle. Mais cette demeure, on ne peut pas la trouver n'importe où. Elle n'est pas sur la Lune, elle n'est pas sur toutes les planètes de notre système solaire, sur toutes ces planètes qu'il y a dans notre galaxie, la Voie lactée. Non. Voyez, sa demeure est souverainement élevée au-dessus de tout. Et donc, il faut aller jusqu'à lui. Or, aucun homme ne peut par lui-même s'élever jusqu'à Dieu. Voilà pourquoi Dieu lui-même est descendu jusqu'à nous. Et en Jésus-Christ, mes amis, étant né de nouveau, ayant été engendré à la nouvelle vie, nous pouvons alors nous élever jusqu'à Dieu et entrer dans le Saint des Saints, entrer dans son palais céleste et le servir dans la louange, dans l'adoration comme nous l'avons fait, nous attarder devant sa face. Il habite les lieux très élevés. Et gloire au Seigneur. Ça, c'est donc sa première adresse. Il habite dans la sainteté. Tu veux voir Dieu, tu veux être avec lui, prends le chemin de la sanctification. Voilà. Éloigne-toi du péché. Éloigne-toi de toute impureté. Voyez-vous? Et vous allez commencer à vous approcher de lui. Entre dans cette vie de sanctification. Alors, Dieu ne sera pas loin de toi. Alléluia. Voilà. Donc, le Créateur de toutes choses, celui qui nous engendrait à la nouvelle vie en Christ, celui qui est notre Père en Jésus-Christ, habite dans les lieux élevés. Vous ne pouvez pas trouver son sanctuaire ici-bas, voyez-vous. Et d'ailleurs, ce lieu nous appelons Église, c'est parce que nous nous rassemblons pour invoquer ce Dieu-là, pour le servir d'une manière ou d'une autre. Mais sinon, ce lieu n'est pas différent d'autres lieux, n'est-ce pas? Eh oui, d'ailleurs, la preuve, c'est que c'est une entreprise qui n'a rien à voir avec le spirituel, qui est donc chargé de mener la construction. Voyez? Dieu ne peut pas habiter dans des choses faites par les mains de l'homme. Il habite dans son propre palais, dans ces lieux élevés où nous ne pouvons entrer que par Jésus-Christ, celui qui a inauguré ce chemin vivant et permanent. C'est encore lui qui est, mes amis, notre souverain sacrificateur, la porte qui donne accès au trône de la grâce. Ça, c'est la première adresse. Voilà l'adresse de Dieu. Vous n'allez pas le trouver dans des villages ou dans des villes qu'on appelle villes saintes ou sacrées, tout ce que vous voulez. Non, Dieu est dans sa demeure. Dieu est esprit. On ne peut entrer dans sa demeure qu'en esprit et par l'esprit. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur a dit que Dieu est à la recherche de véritables adorateurs, de ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Car ceux-là, de par la nouvelle naissance, ceux-là, étant devenus le temple du Saint-Esprit, peut alors, par le Saint-Esprit et au nom de Jésus-Christ, entrer dans ces lieux souverainement élevés, dans ces lieux élevés, et aussi, ceux-là peuvent, eh bien, expérimenter la sainteté de Dieu de manière quotidienne. Ça, c'est la première adresse de Dieu. La deuxième adresse, mes amis, eh bien, nous trouvons dans le même verset, il nous indique que le Très-Haut a une autre adresse qui nous surprend encore plus. Ah, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, j'habite, je suis avec ceux qui ont un esprit brisé, qui ont un esprit contrit, voyez, ceux qui sont humiliés d'une manière ou d'une autre. Il dit, je suis avec eux, vous voyez, nous devrions être des serviteurs brisés, afin que lorsque les gens viennent vers nous pour la prière, viennent vers nous pour tel ou tel autre conseil, qu'ils trouvent des hommes brisés, qu'ils trouvent des femmes brisées, car Dieu habite avec ceux qui sont brisés, avec ceux qui sont humiliés. Alléluia. Mais aujourd'hui, quand on approche les serviteurs de Dieu, c'est d'abord les titres qu'ils nous brandissent. Je suis ceci, je suis cela. Quelquefois, on ne peut même pas les voir. Vous voyez? Voilà. Ils sont imbus d'eux-mêmes, parfumés d'orgueil. Voyez-vous? Parfumés d'arrogance. Voyez, rempli de convoitise, rempli de toutes sortes de mondanité. Et comment voulez-vous que Dieu puisse être avec nous dans ces conditions-là? Ainsi, lorsque les gens s'approchent de nous, lorsqu'ils viennent pour chercher une bénédiction quelconque, oui, nous disons, je vous bénis. Oui, nous disons, voilà, je prie pour vous, mais en réalité, rien ne se passe. Parce que Dieu n'est pas avec nous. Mais si nous sommes morts à nous-mêmes, si notre moi est crucifié, si nous sommes remplis du Christ, en nous approchant, ils vont approcher le Seigneur. Alléluia. Ainsi, ils pourront trouver le Seigneur à travers notre vie, à travers notre ministère. Ainsi, nous pourrions demander au Seigneur de poser simplement sa main sur eux. Voyez-vous, sans trop de chichi, comme c'est le cas, on essaye d'impressionner, on tourne en rond, on parle en langue, et puis on dit des choses inintelligibles, des délires quasiment, et puis après il dit, voilà, je t'ai béni. Voilà. Et ensuite, on demande l'offrande. Malheureusement, Dieu habite, Dieu est avec ceux qui ont un esprit brisé. Vous voyez pourquoi, mes amis, c'est fondamental que non seulement nous comprenions des choses à propos du renoncement, mais que nous fassions cette expérience-là. Dieu est avec les cœurs humiliés, les cœurs brisés. De manière générale, dans notre monde, eh bien, les rois, ceux qui occupent des positions dans la société, les rois et compagnie, eh bien, sont plus à l'aise lorsqu'ils sont en compagnie de gens riches. Oui ou non? Lorsqu'ils sont en compagnie d'autres rois, d'autres chefs de ce monde, lorsqu'ils sont en compagnie des hauts dignitaires, des riches, de ceux qui ont réussi dans la vie, par exemple dans le sport. Nous avons des stars du ballon rond. Oui. La Coupe du Monde a lieu dans ces trois pays que vous connaissez. Et il y a des stars parmi ces footballeurs. Et regardez comment même les hommes politiques essaient de s'afficher avec eux. Voilà. Vous le voyez avec Mbappé. Ils s'affichent. Ils se font de bises. Vous voyez? Regardez Yamal. Toutes ces stars du foot. Neymar, ce sont des gens quand ils arrivent pour voir un homme d'État, je vous assure, l'homme d'État oublie tout. Il met son ministre à la porte. Faites-moi entrer Neymar, il est où? Vous voyez? Et donc, les rois de ce monde cherchent à être en compagnie de ces gens-là. Voyez-vous? Ouais. Ceux qui ont réussi, par exemple, dans les affaires, comme Dangote. Oh, Dangote le Nigérian. L'homme le plus riche d'Afrique. Voyez-vous? On cherche à être avec lui. Mais qui chercherait à être avec quelqu'un dans le fin fond d'un Gandangika? Non. Mais on cherche avec les stars de la musique. Oh, n'en parlons pas. Nous aimons beaucoup la musique ici. Hein, de la musique chrétienne. Il y a des stars, hein? Voilà. Tout le monde veut s'afficher avec. On a déjà fait venir quelques personnes ici pour chanter. Et j'ai été offusqué par la réaction de certains des fidèles, surtout les jeunes. Voilà. Après que la personne ait chanté pour le Seigneur, il y a eu comme un essaim d'abeilles autour d'elle. Des selfies. On tremble. Il y a même une sœur qui m'a dit, là je l'ai ramassée. Elle a dit, c'est une star, hein. Et quoi? Si c'était une star, je ne l'aurais jamais invité ici. Parce qu'ici, il y a une seule star. Celui. C'est lui. On cherche à s'afficher. Vous voyez? On cherche la compagnie de ces gens-là. Oui, quelquefois, ça paye. Hein? Voilà. À force de s'afficher avec un grand, eh bien, les grands aussi vont te voir. Voilà. Il va t'amener n'importe où et des portes peuvent s'ouvrir. Pour toi, voyez, ça c'est la manière d'être dans ce monde. Mais regardez mes amis, lui le roi des rois, lui le seigneur des seigneurs, lui le Dieu tout-puissant, a choisi de demeurer avec ceux qui sont humiliés, avec ceux qui sont brisés, voyez-vous, c'est avec ces gens-là, eh bien, qu'il est. Il est avec eux. J'habite avec ceux qui ont le cœur brisé. Voyez-vous. C'est pourquoi ne méprisez jamais quelqu'un. Parce qu'il a une allure qui ne vous plaît pas. Voilà, parce qu'il n'a pas de véhicule comme vous. Parce qu'il n'a pas étudié comme vous. Pour venir habiter auprès de nous, Dieu n'a pas besoin que nous ayons des diplômes.
que nous occupions une certaine position dans la société. Il regarde au cœur, un cœur contrit, un cœur brisé, un cœur humilié. Voilà le cœur qui attire Dieu. Et le Seigneur déclare, j'habite avec ceux-là. Et donc, c'est auprès de ceux-là que nous pouvons trouver véritablement Dieu. Regardez les disciples, en particulier les apôtres, après la Pentecôte, quand ils ont compris l'importance du brisement, quand ils ont compris l'importance de mourir à eux-mêmes. Regardez la vie de Paul, mes amis. Tous ceux qui l'approchaient repartaient avec une bénédiction. Oh, alléluia! Dieu accomplissait des miracles extraordinaires par lui, parce que Paul avait compris l'importance de mourir à soi-même. D'ailleurs, il en parle. Voyez-vous, il en parle dans ses épîtres. Il faisait tout, puisque la mort à soi-même, le renoncement à soi-même, est une expérience continue qui va durer jusqu'à notre mort. Voyez-vous? Ou alors, jusqu'à ce que le Seigneur revienne et qu'il nous prenne. Mes amis, nous ne pouvons pas aller loin dans notre marche avec Dieu. Nous ne pouvons pas nous attendre à expérimenter des grandes choses. Avec Dieu, expérimenter la puissance de résurrection du Christ, si nous ne prenons pas le chemin du brisement, si nous n'acceptons pas d'entrer dans ce processus qui conduit à la crucifixion du moi, à la mise à mort du moi. Il faut que le moi meure. Absolument. Voyez. Alors, qu'est-ce que le brisement? Parce qu'il y en a qui pensent qu'en s'habillant simplement, voilà, en marchant d'une certaine manière, en saluant les gens, disent, ah, bonjour frère, ah, frère Win, ça va? Ah, gloire à Dieu. Papa Kabande, ça va? Oui. On déforme le cou, on s'habille simplement. On ne met plus de chaussures normalement, ouais, même des baskets. Non, on va chercher de vieilles savates qui ressemblent à des pirogues. Alors, on pense qu'avec ça, on est humble. Non! Ça, c'est de l'hypocrisie. On peut être habillé normalement et être véritablement humble. C'est une attitude du cœur, évidemment, qui se reflète, comment? Par un comportement qu'on voit. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un s'habille d'une certaine manière, vous voyez? Ce n'est pas parce que quelqu'un a choisi de mener une vie marquée par la pauvreté qu'il est véritablement humble. Et quelquefois, c'est même de l'orgueil dans cette fausse humilité. Voilà, on dit aux gens, vous voyez, je suis humble. Regardez comment je marche. Voilà. Je suis humble, regardez comment. Voilà, j'ai une vieille chemise. Alors qu'on trouve il y a des vêtements de friperie, de seconde main un peu partout. À 5000 francs, vous avez une belle chemise, oui ou non? Non. Ils vont mettre un t-shirt qui n'a plus de couleur et vous avez des auréoles en dessous des aisselles et non, c'est l'humilité. Dieu nous appelle à être pauvres. Mais ce pauvre en esprit, vous pouvez trouver des pauvres en esprit qui ont de l'argent, qui occupent une certaine place dans la société, mais qui sont humbles. Oh, alléluia. Quand vous les approchez, vous voyez le Seigneur. Vous sentez le Seigneur. Quand vous les touchez, vous touchez le Seigneur. Et gloire à Dieu. Qu'est-ce que le brisement? En quoi consiste le véritable brisement? Car à propos du brisement, eh oui, on entend et on en a entendu de tout. Des vertes et des pas mûres. Comme je viens de vous le dire, chacun définit le concept du renoncement d'une manière ou d'une autre, dans nos différentes religions, ou du moins dans les dénominations chrétiennes, vous allez voir, ce concept-là est défini d'une manière ou d'une autre. Mais le brisement, c'est une expérience, comme nous allons le voir, qui est rendue possible par des choix que nous faisons, de soumettre notre volonté à la volonté du Seigneur, de renoncer à certaines choses, vous voyez? Quelqu'un a dit un jour que comme le parfum, le brisement était plus facile à percevoir qu'à définir. Voyez, vous prenez une bouteille de parfum.
On suppose, hein?
On vous l'exhibe. Vous voyez ce parfum. Et, si on vous demande de décrire, vous allez décrire cette bouteille de parfum. Comment elle se présente. Décrire même la couleur du parfum. Voyez-vous? Et tout ça. Mais sans plus, un parfum n'a pas besoin d'être défini. Il faut percevoir le parfum. Il faut le sentir.
Alléluia.
Il faut être en contact avec le parfum ou alors être en contact avec quelqu'un qui est parfumé. À ce moment-là, vous n'aurez pas besoin qu'on vous définisse ce que c'est un parfum. Le parfum lui-même, va se démontrer. Alléluia. Il en est de même du brisement. Voilà ton eau. Voilà. Il en est de même du brisement. Alors, à quoi se reconnaît-il dans notre vie? C'est-à-dire, à quoi le brisement se reconnaît-il dans notre vie? Le véritable brisement, parlons-en. Eh bien, le brisement authentique n'est ni un sentiment, ni une émotion, mais c'est une expérience continue. Oh, alléluia. C'est un style de vie que nous devons mener. C'est une marche de tous les jours. Ce n'est donc pas un sentiment. On n'atteint pas un point dans sa vie, on se dit, tiens, je sens que je suis humble. Oh, gloire à Dieu. Je suis brisé. Vous voyez? Non, ça n'a rien à voir. C'est une expérience à vivre. C'est un style de vie. Que celui qui veut me suivre, celui qui veut devenir mon disciple, renonce à lui-même, se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. Et nous suivons Jésus jusqu'à notre mort, ou alors jusqu'au jour où la trompette sonnera, et qu'il reviendra pour nous chercher et nous faire entrer dans la gloire. Le brisement, mes amis, c'est l'anéantissement de notre volonté propre. C'est l'abandon total de notre volonté à celle du Seigneur. Seigneur, non pas à moi, mais à ton nom, et à ton nom seul revienne la gloire. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Alléluia. Et donc, je soumets ma volonté à celle du Seigneur. Ça veut dire que désormais, celui qui me conduit, je ne choisis plus là où je dois aller. Je suis appelé au ministère. Eh bien, je dis, Seigneur, tu m'as appelé au ministère. Maintenant, j'attends que tu m'envoies là où tu aimerais que je te serve. Mais dans la plupart des cas, non. Je suis appelé au ministère. Eh bien, je cherche un quartier. Il y a tout autour de la borne des petites églises qui se sont implantées. Voyez-vous? Dites-moi, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. C'est pourquoi il faudra un jour mettre donner un coup de pied dans cette fourmilière. Des petites églises à gauche, à droite. Voilà, sur une même rue, vous pouvez en compter 20. Voilà. Quelquefois, il faut qu'on vous dise qu'il y a une église là. Ils ont arrangé quelque chose derrière la maison. Alors, ils achètent les baffles, et c'est tout. On commence à jouer le tam-tam, la musique, une église naît. Non. Que ma volonté, Seigneur, soit soumise à la tienne. Ceci revient à dire au Seigneur, Seigneur, sans résistance, je m'offre à toi. Sans opposition, sans entêtement, je soumets ma vie à ta direction et à ta volonté. Amène-moi là où tu veux. Je vous assure, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Voilà. Même vous, les étudiants, quand vous terminez, c'est vrai que il y a toujours des aspirations. Il y a la volonté des parents. Oh, nous avons toujours souhaité qu'il y ait un médecin dans la famille. Voilà. Alors, on pousse l'autre. On pousse le fils pour qu'il fasse la médecine. Alors, qu'il avait des problèmes, des failles en mathématiques, en physique, en chimie, etc. Il dit, non, tu vas devenir médecin. Alors, l'enfant, malgré lui, va se lancer dans des études de médecine, il échoue la première année, Et puis la deuxième année, il échoue. Et en Europe, c'est fini. Hein. Deux fois, c'est fini. Tu ne peux plus faire la médecine. Tu es blacklisté. Tu ne peux même, tu ne peux pas changer d'université en disant, tiens, ça n'a pas marché à l'ULB, j'ai échoué, je vais aller m'inscrire à l'université de Gand. Non, c'est fini, tu ne peux plus. Donc, tu n'es pas bon pour la médecine. Alors, ici, chez nous, je ne sais pas. Et de toute façon, on trouve des facultés de médecine partout. Partout. Il y a juste un petit bâtiment, trois chambres. Quelqu'un qui a fait la médecine, qui a fait une spécialisation, eh bien, il s'improvise professeur d'université. On commence à former les médecins. Vous voyez? C'est pourquoi vous, les jeunes, vous devez prier. Seigneur, voilà, j'aspire à devenir ingénieur. C'est pas mauvais. Nous avons besoin d'ingénieurs. Nous avons besoin de médecins. Nous avons besoin d'économistes. Nous avons besoin de tout. Mais seulement, Seigneur, je t'appartiens. Toi seul sais. C'est en quoi tu m'as appelé. J'aimerais entamer des études qui me permettent de demeurer dans ta volonté. Voyez-vous, nous devrions apprendre à prier ainsi. Et non pas laisser les autres... Toi, tu es fort en maths, hein? Tu dois faire la médecine. Non, toi, tu es fort en comptabilité. Ah, il faut faire l'économie, etc. Voyez, toi, tu parles bien. Tu ferais un très bon avocat. Très bon avocat. Allez, va. Nous allons t'aider. Et puis on pousse la personne. Première année. Et puis deuxième année, péniblement. Allez, vas-y. Et quelquefois, ben, allez. Nous connaissons les méthodes ici, hein, ou même ailleurs, des tricheries. C'est pourquoi nous devrions être très, très, très à cheval sur les critères qu'il faut remplir avant de se lancer dans les études universitaires. J'ai lu un article terrible. Un Français. Directeur au CNRS, Centre National de la Recherche Scientifique, quelqu'un qui est très engagé dans la vulgarisation de la science, dans les médias très connus. Eh bien, on a découvert que sa thèse, qu'il avait défendue en 99, en 2009, était bourrée de plagiat. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des logiciels comme Compilatio. Voilà, on peut détecter tout ça. Au début, il y avait déjà des recherches, c'était à peine 20% des synthèses. Voilà. Mais quand ils ont lancé ce logiciel, quand ils ont mené des enquêtes et tout ça, eh bien, c'est toute la thèse. Voilà. On lui a repris son diplôme de docteur en sciences, je crois, et interdit de s'inscrire dans une école doctorale. Il ne pourra plus faire une thèse. Car quand on distribue des doctorats comme ça, il y va, mes amis, de la réputation même de l'université. Et de l'autre côté, ils tiennent beaucoup à ça. Donc si vous allez de l'autre côté, faites très attention. Moi, je vois ici, tout le monde est docteur. 3 ans, il est docteur. Avec l'IA. L'IA travaille à ta place et les professeurs n'ont pas le temps. Hein. Enfin, du moins pour certains. Parce qu'il y a aussi des professeurs d'université qui sont très, très rigoureux. Voilà, qui restent très fermes là-dessus. Donc, c'est l'anéantissement de notre propre volonté. Nous devons mourir à nous-mêmes et laisser la volonté de Dieu nous conduire. Alléluia. Seigneur, non pas ma volonté, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu désires. Gloire au Seigneur. Le brisement authentique, c'est accepter de renoncer à notre confiance en nous-mêmes. Quelquefois, nous avons une grande confiance en nous-mêmes. Voyez-vous? Et à notre indépendance vis-à-vis du Seigneur. Nous voulons diriger notre vie comme nous le voulons, comme nous l'entendons. Voyez? Mais avec le brisement, on est conduit à dépendre totalement et entièrement du Seigneur. C'est pourquoi accepter, mes amis, les épreuves, voyez-vous, même si vous devez passer autant d'années dans le désert, si telle est la volonté de Dieu, acceptez de rester au désert. C'est comme ça que votre moi va mourir, voyez-vous, et ce n'est qu'après que Dieu vous bénira au-delà de tout ce que vous pourriez vous imaginer. Brisement, avec le brisement, avec un cœur brisé, un cœur anéanti par la grâce de Dieu, on peut alors être conduit par le Seigneur. Le brisement ramollit, c'est-à-dire rend mou le sol de notre cœur. Le péché durcit notre cœur, n'est-ce pas? Oui. Le péché rend infertile notre cœur. Ainsi, quand nous recevons la parole, eh bien, elle n'arrive pas à se reproduire, à germer, à produire des racines, à pousser, et puis à donner de fruits. Pourquoi? Parce que le sol est dur. Or, avec le brisement, eh bien, notre sol devient mou. Notre cœur est maintenant malléable, façonnable, comme pour l'argile. Pour travailler l'argile, mes amis, il faut qu'elle soit bien molle et bien malléable. C'est alors que le potier pourra donner la forme qu'il veut à l'argile. Il en est de même avec le divin potier. Alléluia. Nous devons être brisés et humiliés. Alors nos vies, nos cœurs deviendront modelables, façonnables, malléables. Et ainsi, il pourra accomplir son travail. Mes amis, poursuivre réellement le Seigneur, poursuivre véritablement le Christ, nous devons accepter de mourir à nous-mêmes. Et ceci passe par le brisement. Les problèmes que tu rencontres, les épreuves que tu connais, voyez-vous, tout cela sont des opportunités que le Seigneur te donne d'accepter le brisement. Vous savez, quand vous avez tout, eh bien, le moi aura tendance à se mettre sur un piédestal et à croire qu'il est au centre de la terre. Regardez tous ces gens qui sont dopés par leur succès, comment ils se comportent. Voilà. Ils ont l'argent, ils croient tout se permettre. Oui, ils sentent l'orgueil. Il transpire l'arrogance. Et puis tout d'un coup, l'épreuve frappe. On perd tout. On perd son poste. Avec tous les avantages liés à ce poste. On perd son travail. Les affaires bloquent. Voilà. Plus de bénéfices. Tout périclite. Voyez. Et on commence à s'agiter. Seigneur, que vais-je devenir? Si tu n'interviens pas, je vais mourir. Mais lui sait. Il dit non, tu ne vas pas mourir. Voilà. Tu as cru que tu es arrivé avec ce que je t'ai donné. Et tu t'es appuyé sur ce que je t'ai donné plutôt que sur moi. Ça, c'est le moi. Le moi doit être brisé. Nous devons rester dépendants du Seigneur en tout. Que nous ayons à manger ou pas, notre vie doit dépendre totalement et entièrement du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous devons accepter de mourir à nous-mêmes, accepter le brisement. Avec la mort du moi, comme nous l'avons vu avant de terminer, le dimanche dernier, nous pouvons mener une vie centrée sur le Seigneur, une vie christocentrique, avec des résultats on ne peut plus extraordinaires. Vous voyez, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Et je voudrais pour terminer lire Galates 5. Et là, vous allez voir. Nous reviendrons sur ce passage la prochaine fois. Galates 5, à partir du verset 16. J'ai dit donc, marchez par l'Esprit. Marchez selon l'Esprit. Marchez sous l'impulsion de l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Voilà, c'est si simple. Voyez? Et il continue. Car la chair, cette tendance pécheresse qu'il y a dans tout homme, la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Et puis on décrit les œuvres de la chair. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Quelles sont ces œuvres-là? L'inconduite. En grec, c'est porneia, la fornication. Il faut nommer le péché. Et donc, l'inconduite ou la fornication, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, hostilité, discorde, jalousie, et oui, la jalousie, fureur, rivalité, oui, les rivalités, division, parti pris, envie, convoitise, ivrognerie, orgie et choses semblables. Et il poursuit, je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. C'est clair. Voilà. Au lieu de chercher l'élévation, cherchez la mort à vous-même. Malheureusement, beaucoup rateront le ciel. Voilà. Ce sont des gens remplis de convoitises et de cupidité. Ce sont des gens qui marchent et vivent dans l'immoralité. Ils trompent leurs femmes, voyez-vous. Ils profitent de leurs responsabilités pour embarquer toutes les secrétaires, toutes les femmes qui travaillent au bureau. Et après, vous le voyez les dimanches à l'église. « Oh, bonjour pasteur, ça va ?» Et puis, ils lèvent les mains, ils parlent en langue et tout ça. Mais ils ont des yeux remplis de convoitises. Pendant qu'ils prient, ils balayent la salle. Voilà. Ils balayent la salle. Voyez. Mon frère, ma sœur, cela est aussi vrai pour les femmes. Hein? Vous risquez de rater le royaume de Dieu. Nous devons mourir. Et l'auteur inspiré poursuit. Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité ou foi, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Il n'y a pas d'autre moyen. Comment marcher selon l'Esprit si vous ne mourrez pas vous-même chaque jour qui passe, si vous ne renoncez pas, mes amis, aux choses, aux péchés, si vous ne soumettez pas votre volonté à la volonté du Seigneur, comment marcher selon l'Esprit si vous n'êtes pas brisé? Quand on est brisé, alors le Saint-Esprit peut nous conduire. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Nous inclinons nos têtes dans la prière. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole. Nous aimerions vivre, Seigneur, cette expérience du renoncement à soi. Nous voulons, ô Dieu, remplir ces conditions afin de devenir tes disciples. Oui, nous voulons renoncer à nous-mêmes. Renoncer, Seigneur, à toutes ces choses, aux œuvres de la chair. Accepter le brisement. Accepter, Seigneur, d'être humilié, afin de pouvoir marcher selon l'Esprit. Ô Dieu, aide-nous sur le chemin de la mort, Seigneur, de notre moi. Oui, merci pour tout. Que cette parole, Seigneur, produise du fruit pour ta gloire dans chacun de nos cœurs. Merci, Seigneur. Merci pour tout. Nous voulons aussi te prier, Seigneur, pour les offrandes. Puisses-tu bénir, Seigneur, ces moments, posez ta main sur ce que nous allons te donner. Merci pour tous ces cœurs qui te sont fidèles, ces cœurs généreux envers toi, envers ton œuvre, que tout cela puisse servir à la gloire et à la louange de ton nom. Merci Seigneur. Amen.